Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux 30e rencontres de Pétrarque à Montpellier. Ultime rendez-vous, évidemment marqué par ce qui s'est passé hier soir à Nice. Nouvelle attaque terroriste, nouvelle tragédie nationale et toujours cette sidération face à la brutalité d'un tel événement. Réinventer la politique, c'est le thème que nous avions choisi d'aborder pour clore cette semaine de débat, au cours de laquelle nous sommes revenus sur quelques-uns des grands sujets qui ont marqué l'histoire de ces rencontres. Réinventer la politique, un thème qui, après tout, n'est pas dénué de sens dans un tel contexte. La menace terroriste, telle qu'elle se déploie aujourd'hui, nous plonge dans une urgence permanente, une vulnérabilité qui semble sans échappatoire. Elle conforte les réponses de court terme, quelles mesures immédiates, par exemple, en termes de sécurité, au détriment du long terme, celui qui est censé guider l'action politique. C'est aussi cela que produit un tel événement. Il nous détourne du futur pour nous enfermer dans le présent. Alors, pour réfléchir ensemble à ces questions, nous recevons aujourd'hui Dominique Schnapper. Bonjour.
Bonjour.
Sociologue, directrice d'études à l'EHESS, membre honoraire du Conseil constitutionnel. Vous avez publié, notamment chez Gallimard en 2014, « L'esprit démocratique des lois ». À vos côtés, Manuel Cervera-Marzal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'EHESS. Vous avez publié cette année deux ouvrages, l'un chez Textuel, « Pour un suicide des intellectuels », titre volontairement provocateur, et puis « Les nouveaux désobéissants » aux éditions du Bord de l'eau. Et puis, troisième invité, Thierry Pêche. Bonjour.
Bonjour.
Directeur général de Terra Nova. Terra Nova qui est un des principaux laboratoires d'idées politiques. Vous êtes le co-créateur de la République des idées avec Pierre Rosanvallon, et puis vous intervenez régulièrement dans l'esprit public sur France Culture le dimanche matin. Nous allons démarrer la conversation avec vous trois, et puis dans quelques minutes, nous serons rejoints par nos trois invités d'hier, Corinne Pelluchon, Patrick Boucheron et Camille Grande, qui nous ont fait l'amitié de rester parmi nous pour voilà, essayer de réfléchir aussi ensemble à cet événement si particulier. Dominique Schnapper, réinventer la politique, donc c'est vrai que cela pourrait être peut-être une préoccupation un peu dérisoire au regard de ce que nous attendons peut-être le plus lorsqu'un événement d'une telle ampleur et d'une telle violence se poursuit, à savoir des réponses immédiates en matière de sécurité, des réponses qui soient rapides, qui soient concrètes, qui soient rassurantes. Réinventer la politique, là, en l'occurrence, c'est d'abord attendre des réponses politiques extrêmement, comment dire, traditionnelles, finalement.
Oui, avant les événements, on aurait pu orienter notre discussion aujourd'hui autour des problèmes du renouvellement des pratiques démocratiques, du sens de l'avantage qu'on pourrait avoir à renouveler la République représentative, donc, qui est souvent critiquée, et évoquer les conseils de citoyens et toutes les formes de démocratie participative. Si nous voulons essayer de tirer la réflexion de ce nouvel épisode, ce n'est pas le premier, il y en a eu d'autres que je ne vous rappellerai pas, il y en aura sans doute d'autres. Peut-être pouvons-nous orienter un petit peu différemment les premières réflexions qu'on peut faire. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup concentrés autour de ces problèmes du renouvellement des pratiques démocratiques, et ça n'est pas sans importance, parce que être démocrate, c'est respecter les institutions et les pratiques démocratiques. Mais je pense que ça nous force peut-être à aller un peu plus loin et à nous demander si depuis quelque temps, dans nos démocraties, nous ne sommes pas excessivement concentrés autour des problèmes, disons, sociétaux ou sociaux au sens large du terme, et que nous n'avons pas un peu négligé le problème fondamental pour lequel l'État a été créé, c'est-à-dire celui de la sécurité des individus, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure. Et la menace terroriste est un double défi, un défi intérieur, puisque la distinction entre l'intérieur et l'extérieur devient de plus en plus floue, et que ce qu'on appelle les ennemis peuvent être intérieurs à notre société, et la défense extérieure vis-à-vis du reste du monde. Donc la démocratie est devant ce double défi qui a une face interne et une face externe, et c'est ce que l'événement récent nous rappelle en nous disant l'État n'est pas seulement un État de protection sociale, c'est aussi un État régalien qui doit défendre ses citoyens et à l'intérieur et à l'extérieur.
Thierry Pêche, de tels événements posent en permanence finalement des défis à la démocratie ?
On a besoin encore de beaucoup d'informations avant de se prononcer sur ce qui s'est passé. Mais si ces événements sont l'épisode suivant de la liste noire que nous connaissons depuis un an, ils nous éloignent et ils nous rapprochent de ce que pourrait être une réinvention de la politique. Ils nous en éloignent parce que la peur est évidemment la plus mauvaise conseillère pour repenser la politique. Mais en même temps, la peur est au cœur du contrat de l'État avec les citoyens. Vous l'avez rappelé, Dominique Schnapper, d'un point de vue hobbésien, d'un point de vue philosophique, il faut toujours se rappeler que l'État est là d'abord pour assurer la sécurité des citoyens. Mais en même temps, si ces événements sont l'œuvre d'un terrorisme de type djihadiste, comme nous avons connu par le passé, alors ils nous rappellent aussi profondément ce qu'est la politique dans nos démocraties. La politique ne tire son principe d'aucun au-delà dans nos démocraties, d'aucune hétéronomie radicale, d'aucune extériorité qu'on l'appelle tradition, qu'on l'appelle spiritualité ou autre. Et d'une certaine façon, ce qui est attaqué dans ces attentats, peut-être sous réserve d'informations qui confirmeront ou infirmeront ce que je suis en train de dire, et donc je le dis avec beaucoup de prudence, mais ce qui est attaqué, c'est notre conception de la politique en démocratie. La politique ne tire son principe d'aucun au-delà, et c'est précisément ça qui est aussi contesté dans ce genre de terrorisme.
Et la date choisie, d'ailleurs, n'est évidemment pas liée au hasard. Le 14 juillet, fête nationale. Je poursuis et j'achève ce premier tour de table avec vous, Manuel Cervera-Merzal.
Oui, alors, comme l'ont dit les deux intervenants précédents, hein, c'est très, très compliqué de s'exprimer sur ce sujet à peine quelques heures après. Il y a la sidération, il y a la tristesse, il y a la souffrance des familles des victimes. On pense à tout ça et donc on a du mal. J'ai d'autant plus de mal à m'exprimer sur le sujet que je fais partie de celles et ceux qui sont convaincus que l'État de droit est aujourd'hui sur une pente sécuritaire, sur une pente liberticide, dont on a vu au cours du précédent semestre de multiples manifestations à travers la brutalité policière, ces violences qui restent impunies, ces personnes qu'on assigne à résidence sur des présomptions qui se révèlent au final totalement infondées, ces yeux crevés, ces corps marqués à vie, et j'en passe, et des meilleurs. Et du coup, toute la difficulté, c'est que là, effectivement, dans l'instant présent, on a envie, on a un besoin de davantage de sécurité, on a envie d'en appeler à plus de police, à plus de renseignements, à plus d'interventions en Syrie, en Irak, mais c'est justement contre toutes ces tentations que il faut résister. Et vous disiez, Dominique Schnapper, que on avait peut-être trop mis Schnapper, excusez-moi, qu'on avait peut-être trop mis en avant les problèmes sociaux au détriment de la question de la sécurité. Mais moi, je suis au contraire convaincu qu'il y a un lien très profond entre ces deux, entre notamment ces attentats et entre les problèmes sociaux qui persistent. On connaît les chiffres sur la misère, sur les inégalités qui se creusent, etc. On connaît le parcours des frères Kouachi, on connaît le parcours d'Amélie Coulibaly, on sait que c'est des gens qui, oui, ont un profil similaire les uns les autres, qui, oui, viennent, ont grandi dans des zones urbaines sensibles, qui ont eu des parents qui se sont prostitués, qui sont morts très tôt, qui ont été placés dans des familles d'accueil. Et donc, on ne peut pas faire comme si ces individus ne provenaient pas de certaines catégories de la population. On ne peut pas oublier ça. Revenir sur ces éléments d'explication, de contexte, n'est évidemment pas, comme c'est plus à le dire notre Premier ministre, une façon d'excuser ces actes.
Mais vous ne voyez aucune réponse politique aujourd'hui, Manuel Cervera-Merzal, par rapport à cette situation que vous décrivez. Vous ne voyez qu'une réponse sécuritaire?
C'est très dur, parce qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur la réponse politique, et elle est effectivement sécuritaire, militaire, voilà, bombarder, surarmer les policiers, militariser la police, faire plus de renseignements. Et on voit que tout simplement, c'est inefficace, voire pire, que c'est contre-productif. C'est des recettes que les Américains, que les Espagnols, qui ont été frappés avant nous par ces attentats, ont mis en œuvre depuis déjà 15 ans, et on voit que ça ne jugule pas les actes terroristes. Ça fait maintenant en France un an et demi qu'on est sous l'état d'urgence, et on voit bien à nouveau que ça ne fonctionne pas. Et pour une raison simple, c'est que ces gens qui font ça sont des individus qui agissent de manière solitaire, qui sont de toute façon prêts à mourir, et que vous pourrez mettre, excusez-moi, je suis très prosaïque, mais vous pourrez mettre des policiers tous les 10 mètres, ça n'arrêtera pas, ça n'empêchera pas ce genre d'acte de se reproduire.
Alors, ce qui peut-être conduit à une question, à la question suivante, c'est-à-dire que c'est que peut la politique, au-delà de l'action et de la réponse immédiate, Dominique Schnapper?
Oui, les faire parler de sécurité ne veut pas dire avoir des réponses sécuritaires ou policières. C'est deux choses différentes. La sécurité n'est pas nécessairement policière. Nous sommes, les démocraties sont devant le problème à la fois de respecter leurs propres valeurs, qui sont celles de la liberté, et en même temps d'assurer la sécurité. Nous savons que c'est difficile et que il y a là une tension fondamentale. Et je dirais que l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire, c'était le projet de réforme du droit de la nationalité. C'est-à-dire que c'était inefficace politiquement et c'était remettre en cause toutes les valeurs qui justifient le projet démocratique. Il faudrait faire l'inverse, c'est-à-dire avoir des dispositions qui soient efficaces et qui ne remettent pas en cause les principes. Alors ce n'est pas facile, mais quand on parle de sécurité, on ne parle pas nécessairement de police et de dimension sécuritaire. Il y a ce risque, effectivement, le risque existe, nous le savons, mais en même temps, il faut trouver cette voie difficile qui consiste à répondre par une réponse politique qui sera forcément à long terme, puisqu'il n'y a pas d'autre que la formation des générations suivantes, mais qui ne sera pas pour autant policière.
J'étais assez frappé par les réactions du personnel politique alors depuis quelques heures d'ailleurs qui sont intervenus très très vite alors dans les médias et notamment et également sur les réseaux sociaux en particulier certains élus de l'opposition qui disaient tous à peu près la même chose. Il faut aujourd'hui passer à l'action. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, passer à l'action sur le plan politique face à de tels événements, Thierry Pech? C'est quelque chose qui me semble assez difficile finalement à comprendre, cette notion d'action dans ces circonstances si particulières.
Oui, je crois que les forces de l'ordre sont à l'action depuis des mois, les forces de renseignement. Alors peut-être n'agissent-elles pas comme il faudrait qu'elles agissent, c'est un autre débat, mais supposer qu'on passerait de 0 à 1, c'est-à-dire de rien à l'action aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas, sinon dans une stratégie d'excitation des peurs et des passions, je ne comprends pas ce type de message. Je voudrais revenir un instant à ce qui a été dit sur ce lien entre la question sociale et les violences qu'on observe. Je crois qu'il n'a rien d'évident pour ma part. Je crois qu'il faut regarder avec beaucoup de prudence ces affirmations qui font de la misère le terreau de la violence. Bien sûr que la misère donne de la force à la violence, mais si cette équation était si simple, alors le monde serait plein de terroristes. Il y a beaucoup de pauvres, vous savez, dans le monde aujourd'hui. Il y a longtemps qu'ils auraient chacun pris des armes. Donc la question est aussi de savoir ce que ces gens ont dans la tête, pas simplement ce qui leur a manqué dans l'éducation ou dans leurs parcours sociaux. D'ailleurs, il y a plus misérable que ces parcours que nous avons examinés tous à la loupe après les attentats de Charlie Hebdo, puis du 13 novembre. Donc, il faut voir ce qu'ils ont dans la tête. Et ce qu'ils ont dans la tête, c'est aussi une espèce de formidable angoisse eschatologique. C'est quelque chose qui va chercher du côté des grandes peurs paniques millénaristes qu'on a connu dans notre histoire. C'est de ce côté-là qu'il faut aller fouiller, rechercher. J'ai en tête les travaux qu'avait pu conduire Denis Crouzet, par exemple, les guerriers de Dieu, sur les grandes paniques des guerres de religion au XVIe siècle. En tout cas, c'est dans cette direction-là qu'il faut chercher, plus que dans une équation simple, matérialiste, qui apporte bien sûr un élément de réponse, mais qui est à mon avis très insuffisant, qui consisterait à faire ce lien causal entre la misère sociale et la violence. Il me semble que c'est trop simple et trop fragile.
D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, Thierry Pech, tout à l'heure, vous disiez que finalement, ce qui était attaqué, peut-être, si c'était confirmé qu'il s'agissait là d'un acte djihadiste, ce qui était attaqué, c'était une certaine conception de la politique qui fait qu'une politique qui n'a pas pour principe un quelconque au-delà. Et c'est une vraie question. Je me souviens de cette vidéo de revendication de ce jeune djihadiste qui a tué les policiers à Magnanville. Et il avait dans cette vidéo qui durait 11 minutes, qui était assez forte, hein, avec beaucoup de commentaires théologiques, beaucoup de choses assez intéressantes et fortes. Il disait à la fin, et beaucoup de choses très violentes et très dures aussi, il avait cette formule qui disait « Le croyant est le miroir du croyant ». Le croyant est le miroir du croyant. Et je trouve que c'est assez beau quelque part, assez pertinent en tout cas. C'est-à-dire que sa croyance à lui, qui est une croyance profondément religieuse et qu'il partage avec des gens qui parfois ont des parcours effectivement de bourgeois, qui ont étudié dans les meilleures universités en Angleterre ou ailleurs, eh bien ce qui le réunit, c'est un certain nombre de croyances, de discours, de manière de se révéler, de se réclamer d'une foi, d'anges prophétiques, de versets du Coran, etc., etc. Et sa croyance à lui dit quelque chose de notre croyance à nous, et notamment d'une certaine croyance politique. Thierry Pech.
Moi, je n'ai pas de croyance lorsque je parle dans l'espace public. Et je ne dis pas ça par conviction républicaine, je dis ça parce que la politique est profondément un objet de non-croyants dans nos régimes démocratiques. Alors, en tout cas, un exercice qui ne se réclame pas d'une croyance. C'est ça qui est terriblement difficile à vivre. C'est la pauvreté symbolique du régime démocratique. Je paraphrase des affirmations qui ont été celles de Claude Defort, que beaucoup ici connaissent bien. Il faut vivre avec cette pauvreté symbolique de la politique, mais qui fait sa beauté en même temps, qui fait sa force, qui fait que n'importe qui peut prétendre au gouvernement, peut prétendre à la représentation de ses concitoyens. N'importe qui est d'abord ceux qui n'ont ni titre à gouverner ni à être gouvernés. Et c'est, voilà, c'est à la fois symboliquement très pauvre et enthousiasmant. Voilà, mais je n'appellerai pas ça une croyance.
Et en même temps, toute une forme de politique occidentale, y compris révolutionnaire, et peut-être en premier lieu révolutionnaire, s'est réclamée d'un certain au-delà, d'un au-delà du monde présent. On en parlait d'ailleurs au début de la semaine, d'un au-delà du monde tel qu'il est, de ses injustices, de ses guerres, de ses contradictions, etc., etc. Donc, qu'est-ce que pour vous, par exemple, Manuel Cervera-Marzal, ce qui est en cause justement dans ce jeu de miroir, c'est pas aussi une forme de crise de l'espérance dans un certain au-delà du social tel qu'il est aujourd'hui?
Si, bien sûr. Je pense que effectivement, il y a un élément sur lequel on pourrait se retrouver, c'est que aujourd'hui, notre régime politique, notre modèle n'a plus de projet consistant à proposer aux citoyens. Voilà, on est dans de la politique qui est de plus en plus spectacle, théâtre, avec les petites phrases, les petits jeux de mots, les guerres de personnes, les guerres d'égo, et on polarise ça sur des enjeux électoraux, des enjeux de parti, au sommet de l'État, la petite guéguerre, est-ce que c'est Valls, Macron, Hollande qui ira à la présidentielle, etc., etc. Et ça, évidemment que ça donne pas envie de se mobiliser, évidemment que ça fait pas rêver, évidemment que ça n'amène pas aux urnes, évidemment que ça donne pas envie de croire dans notre modèle. Et sur ce vide, qui, parce que les raisons et les causes du terrorisme sont extrêmement complexes, je suis d'accord, et extrêmement multifactorielles, mais sur ce vide politique qui vient s'ajouter à, je suis désolé, mais un terreau social réel, eh bien, peut croître ce genre de phénomène, ce genre de monstre, mais qui ne viennent pas de nulle part à nouveau. Ne rejetons pas ça hors de la société française. Ces individus, peut-être, qu'ils ont été faire un voyage en Syrie, qu'ils ont reçu des armes de l'étranger, etc., etc., mais c'est des gens qui ont grandi en France, qui sont nés en France. Et à mon avis, seule une société malade peut produire ce type d'individu, une société malade et une société en manque de politique. Cependant, ce manque de politique, on a vu récemment que certains avaient essayé de le combler en redonnant sens à ce qu'est l'activité citoyenne. On a vu toutes ces occupations de place. On voit qu'à Notre-Dame-des-Landes, malgré le référendum, il y avait 25 000 personnes qui se sont réunies là-bas le week-end dernier, qui tâtonnent et qui cherchent à inventer des modes de vie écologique, démocratique, qui puisse préfigurer une société qui soit une société autre, une société émancipée, une société dans laquelle la politique n'est plus l'affaire d'une minorité d'experts, et la politique aussi qui est de plus en plus, elle a été, on le sait, pendant des siècles et des millénaires, soumise au théologique, elle est désormais soumise à l'économie. L'exemple de Barroso est le plus récent pour le confirmer, mais voilà, on a au quotidien des faits qui le montrent.
Mais en même temps, vous réclamez d'une tradition internationale. Est-ce que vous réclamez d'une tradition internationaliste?
Oh bah évidemment que je me réclame d'une tradition
évidemment.
Internationaliste.
Mais alors, si vous voulez, si on parlait de l'international socialiste ou communiste à une certaine époque, l'intéressant c'était qu'ils avaient tous, ils partageaient tous un certain nombre de mots, de gestes, d'idées et d'espérances. Et on disait pas les communistes bulgares sont les produits de la société bulgare, les communistes russes sont les produits de la société russe, les produits communistes français. Ils l'étaient, mais ce qui les réunissait tous, ce qui faisait vraiment leur singularité, c'est qu'ils s'inscrivaient tous dans une communauté d'espérance qui dépassait les patries et les frontières. Exactement de la même manière aujourd'hui, bien sûr que les gens dont vous parlez sont les produits de la société française, mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils partagent les mêmes mots et les mêmes gestes que leurs camarades ou leurs collègues ou leurs confrères, je sais pas comment dire, leurs compagnons d'armes à Nairobi, à Alep, à Bruxelles ou aux États-Unis. Et c'est ça le point important. Donc comment c'est ça qui remet d'ailleurs en question nos cadres politiques qui sont profondément eux nationaux.
Oui, mais qui sont les les véritables adversaires de cette internationale djihadiste. Je suis désolé, mais c'est pas nos gouvernants. Nos gouvernants, ils tombent dans le piège qui est tombé par ces djihadistes, qui s'attaquent à nos libertés, et réflexe par-dessus ça, réponse de nos gouvernants, c'est justement de restreindre nos libertés. L'autre internationale qui, elle, fait vraiment face à ce mouvement de fond, effectivement, qui est un mouvement global, c'est les mouvements d'occupation de place qui ont essaimé à la fin de l'année 2010 dans le monde arabe, qui ensuite ont voyagé sur les différents continents, à travers les indignés espagnols, à travers Zuccotti Park à New York, et puis en Turquie, au Brésil, en Grèce, etc., et qui a fini par arriver ici en France. Le 15 mai dernier, il y avait une journée globale debout où tous ces activistes qui s'étaient soulevés au cours des 5 dernières années se sont à nouveau réunis en même temps sur les places pour faire entendre une parole, celle des 99%, celle des représentés qui en réalité sont systématiquement exclus et de tout simplement des décisions qui concernent leur propre vie. Eh bien, on a là, je pense, il est là l'affrontement aujourd'hui.
Alors Dominique Schnapper, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand même, je pense que ces croyants fanatiques et violents nous renvoient quand même à un certain nombre de nos croyances et parfois nous rappellent à l'ordre et nous rappellent un certain nombre de concepts, de mots, nous imposent d'utiliser des mots qu'on n'utilisait plus depuis un certain temps. J'étais frappé par le fait que dans un article que vous avez publié, je crois, après les attentats de novembre, vous disiez... Après avoir évoqué, bien sûr, les causalités géopolitiques, sociales, etc., très importantes, vous disiez comment répondre, sinon par l'affirmation de nos valeurs. C'est par la fermeté et non par la démission que nous pourrons à long terme vaincre les forces du mal. Et ça, ce mot, les forces du mal, c'est quand même intéressant, parce qu'évidemment, c'est extrêmement connoté. Et en même temps, je m'interroge, je me dis pourquoi, comment se fait-il qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ça, on se dit mais c'est mal, spontanément. Tout le monde se dit c'est mal. Ce qui s'est passé à Nice hier. Et en même temps, on a du mal à élaborer politiquement ce concept de mal. Or, en fait, dans les années encore, il n'y a pas si longtemps que ça, je lisais la conférence que Paul Ricoeur, qui a été publiée il n'y a pas longtemps chez Labor et Fides, une petite conférence sur le mal, très intéressante, et quelqu'un comme Jacques Derrida n'avait aucun problème à parler du mal. Hein, je le cite, « Quand on ne peut plus identifier la figure de l'ennemi, justement, comme tel, alors vient la violence inouïe, le mal radical, sans mesure et sans fond. » Donc Dominique Schnapper, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous, qui vient de la sociologie traditionnelle et élaborée et rationaliste et forte, vous éprouviez le besoin de parler à propos de ces événements de mal, du mal ?
La raison personnelle, je ne la connais pas. Le fait est que je pense que ce qu'on nous décrit des pratiques de ce qu'on a appelé l'État islamique constitue, oui, une forme de mal avec un... d'une façon absolue ou d'une façon avec un M majuscule, disons. Et je pense que c'est lié et que leur développement est lié dans nos sociétés au fait que la société démocratique n'impose pas à ses membres le sens de leur existence. Elle les laisse libres de choisir le sens qu'ils veulent donner à leur propre existence. C'est ce que Claude Lefort, qu'on citait tout à l'heure, voulait dire quand il disait « le lieu vide ». Alors c'est une liberté, d'une certaine façon, nous l'apprécions comme une liberté, mais on peut aussi, dans certains cas, et dans le cas de la misère sociale, le vivre comme un vide, comme un vide qu'il faut remplir d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où il y a un certain lien, non pas direct, comme on l'a dit au début de la séance, au début de notre discussion, mais il y a un certain lien avec les conditions sociales, c'est que dans certaines conditions sociales, cette liberté que nous pouvons apprécier comme fondamentale peut être vécue aussi comme un vide. De sorte qu'on est devant une espèce de double crise identitaire, l'identité de la démocratie qui, à force de liberté, peut devenir du vide, et la crise identitaire de ceux qui sont amenés à la remplir par ces croyances quasi qui nous apparaissent comme millénaristes, et en tout cas par les croyances religieuses qui nous deviennent très étrangères parce que nous sommes dans des sociétés très sécularisées et nous rendent difficile de comprendre ces passions. Le terrorisme n'est pas de la situation sociale, mais elle naît plutôt des crises identitaires et des passions qui ne trouvent pas d'expression ou de contrôle dans les sociétés démocratiques aujourd'hui.
Alors j'aimerais revenir avec vous trois à ce qui était et ce qui est toujours d'ailleurs le titre et le thème de cette discussion, réinventer la politique, pour examiner peut-être à présent ce que semble être un des effets de ce genre d'événement absolument traumatisant que connaît la France, entre autres, depuis 18 mois. À savoir, on a l'impression que à chaque fois, même si la vie reprend petit à petit, tout se fige, et tout se fige, y compris au niveau de la question politique et de la question des décisions politiques. Est-ce qu'un des effets, je ne sais pas si ça fait partie des effets recherchés, mais en tout cas, un des effets notables et désastreux de ces actes, ça n'est pas aussi d'empêcher finalement la politique de remplir son office, à savoir imaginer et penser le temps long et organiser le temps long et de n'être aujourd'hui que dans la pure immédiateté, Thierry Pech.
C'est pas un cadeau, votre question.
Mais aucune ne l'est.
Non, mais celle-là est quand même assez costaud. Oui, bien sûr, ces événements, ils suspendent les débats que nous aurions aimé avoir, les débats que nous aurions eus s'ils n'avaient pas eu lieu aujourd'hui. De quoi aurions-nous parlé ? On aurait probablement parlé du mouvement des places, que vient d'évoquer mon voisin, donc d'une démocratie moins représentative, plus participative, une façon de faire revenir n'importe qui dans la politique, justement. Je disais tout à l'heure n'importe qui, mais c'est le prénom de la démocratie, n'importe qui, d'une certaine façon. On aurait parlé aussi de Corbyn, de Trump, du Brexit. On aurait parlé de ces manifestations politiques aujourd'hui du monde des perdants. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Et donc, vous avez raison, ce qui vient de se passer nous empêche d'évoquer des problèmes qui vont revenir naturellement, parce que cette pression n'est pas retombée parce qu'on regarde ailleurs. Elle continue de s'affirmer. Mais de fait, ces événements nous éloignent de ce que nous avons à régler, de ce que nous avons à débattre. Et c'est à la fois malheureux, mais c'est pas un artefact, la violence est là. Elle est là, il faut y répondre.
Oui, mais si ça
ne
nous écarte,
comme si ça n'avait pas eu lieu.
Si ça ne nous écarte que de la question de Trump et de Corbyn, finalement, ça n'est peut-être pas si grave, mais est-ce que ça ne nous écarte pas?
Ah si, c'est très grave.
Est-ce que ça ne nous écarte pas aussi de sujets beaucoup plus fondamentaux, dont on a déjà aussi un petit peu parlé au cours de la semaine, la question écologique, on aura l'occasion d'y revenir peut-être, même sans doute dans un instant, notamment avec Corinne Pelluchon, mais la question écologique, la question de la place des animaux, la question de notre place dans le monde, c'est-à-dire qui sont des questions absolument fondamentales, mais dont on voit bien qu'elles ne sont pas prises en charge par le politique.
Oui, mais enfin, vous voyez, les gens qui ont voté pour le Brexit, les gens qui s'apprêtent à voter pour Trump, les gens qui sont des gens qui sont souvent les perdants de la mondialisation, qui ont aussi des questions très importantes à faire valoir, dont on pourrait faire la liste ici, qui n'enlèvent rien à ce que vous venez de dire, mais qui y ajoutent, au contraire. Et donc, on aurait besoin tout de même d'échanger sur ce que l'organisation de nos modes de production, de consommation, nos façons d'échanger, de nous gouverner collectivement, quelle place tout ça laisse aux perdants ?
Est-ce que c'est pas un peu curieux justement de dire, si c'est vraiment intéressant ce que vous affirmez là, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas un peu curieux d'affirmer, voilà, si ces attentats n'avaient pas eu lieu, on aurait parlé de ça, de ça, de ça, de tel et tel sujet. Tout d'un coup, on ne peut pas, il y a comme une parenthèse, et puis à un moment donné, le cours ordinaire des choses va reprendre. Alors, comme si, justement, on n'arrivait pas à inscrire ces attentats dans notre monde politique, dans notre réflexion politique. Vous dites, on aurait parlé, par exemple, du mouvement des places, de Nuit Debout, par exemple. Moi, je pense qu'en fait, il faudrait pouvoir parler des deux. J'avais cité le premier jour de ces débats, cette formule magnifique qui a été tracée par un jeune de Nuit Debout sur un mur à Nanterre qui disait, une autre fin du monde est possible. Moi, je pense que cette phrase, une autre fin du monde est possible, qui est absolument magnifique et profonde, a tout à fait à voir avec finalement le djihadisme. Parce que dans la tête des jeunes en question, il peut y avoir l'idée que, oui, aujourd'hui, toute une jeunesse radicalisée souhaite la fin du monde. Parce que le djihadisme appelle de ses voeux en permanence la fin du monde. Ils ont hâte d'en finir avec ce monde-là. Eh bien, il y a toute une jeunesse qui dit, nous, on aimerait bien choisir une autre fin, au sens, une autre destination du monde possible. Manuel Cervera-Marzal.
Oui, merci beaucoup. Donc, Jean Birnbaum et Hervé Gardette posent des questions absolument massives depuis tout à l'heure, pour lesquelles il ne nous faudrait pas une heure, mais peut-être une semaine entière pour répondre. Non, mais là, pour moi, la question qu'il y a derrière, tout simplement, je suis désolé de le poser comme ça, question massive, réponse massive, c'est la question du politique. Mais qu'est-ce que le politique ? Voilà, qu'est-ce que le politique ? Est-ce que ce terme qu'on emploie depuis déjà une demi-heure, on ne devrait pas s'arrêter un instant pour se demander ce qu'il recouvre. Là-dessus, on a beaucoup parlé de Claude Lefort. Il y a aussi Hannah Arendt qui disait que la politique est quelque chose de beaucoup plus rare que ce qu'on imagine. La politique est quelque chose qui surgit à de très rares instants dans l'histoire humaine. C'est une expérience de liberté. C'est l'avènement de la plèbe, l'avènement du peuple dans l'espace public à travers ce que elle, alors l'expérience qui lui était chère, hein, c'est celle des conseils ouvriers en Hongrie en 1956, mais cette expérience-là, elle s'inscrit dans une longue histoire discontinue de la liberté, une histoire souterraine, une histoire invisible dont je pense, j'ai pas eu le temps de l'écouter, mais Michel Rieu-Sarcey a sûrement dû parler lors de la conférence d'ouverture des rencontres de Pétrarque, une histoire qui, pour se limiter à l'époque, aux époques modernes et contemporaines, remonte aux sans-culottes, poursuit jusqu'aux communards, refait surface avec les conseils ouvriers, et puis aujourd'hui prend de nouvelles formes, à chaque fois sous de nouveaux noms, sous de nouvelles figures qu'il faut s'attacher à détecter, à percevoir, et c'est pas facile, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a toujours besoin, quoi que j'en ai dit dans un autre livre, des intellectuels pour essayer de voilà d'aller chercher, d'aller déterrer un petit peu ces expériences de liberté qui sont pas manifestes, parce que quand on regarde aujourd'hui des expériences comme Nuit debout avec les yeux d'un commissaire de police ou d'un dirigeant de parti politique, on dit ah mais ça c'est du social, ça c'est pas du politique, c'est du social. Le social, voilà, c'est quelque chose d'infra-politique, c'est là où se posent des problèmes, là où il y a des torts, des injustices, mais c'est seulement le politique qui est capable d'amener des réponses, d'amener des solutions. Le politique, c'est le sérieux. Et ça, c'est pour les gens sérieux, qu'on fait les bonnes écoles, qu'on suit les bons parcours, qu'on les diplômes, qu'on les titres, qu'on été élus aussi, parce que la bénédiction des élections, c'est quelque chose qui nous est très cher. Et ce qu'un événement comme ce qui vient de se passer durant le mouvement social tout récent nous invite à faire, c'est à décentrer notre regard et à se demander s'il n'y a pas quelque chose de politique dans justement ce qu'on voit comme non politique, et à l'inverse, si ce qu'on appelle tous les jours politique, les gesticulations je ne citerai pas de nom, sont réellement politiques. Aujourd'hui, les hommes, ceux qu'on appelle les hommes et les femmes politiques, sont pour moi les individus les moins politiques de notre temps.
Je propose, Jean, qu'on n'ajoute pas une question massive à nos précédentes questions, mais qu'on laisse déjà réagir Dominique Schnapper.
Il me semble que s'il n'y avait pas eu les événements de cette nuit, on serait peut-être parti sur un autre mode et sur différents problèmes, mais que fondamentalement, le problème dont il faut traiter est le même avant les événements de cette nuit et aujourd'hui. C'est-à-dire, comment est-ce que les démocraties confrontées dans un monde extrêmement violent, qui sont par essence pacifiques et qui, en tout cas dans une période récente, ne souhaitent pas s'imposer, comment peuvent-elles se défendre, garder leurs valeurs, ne pas les trahir en les défendant et continuer à porter ces valeurs qui bien sûr sont toujours sujettes à manquement et à trahison et bien sûr il faut critiquer tous les abus, tous les dévoiements, tous les manquements, mais qui sont tout de même les valeurs qui sont les plus humaines pour organiser les sociétés humaines. On n'en a pas d'autres, on n'en connaît pas d'autres dans l'histoire humaine. Donc les événements marquants de l'année 2015, enfin les deux grands, et de l'année 2016 maintenant, ne font que réveiller ce problème qui est le même avant et après. Est-ce que nous serons capables de rester fidèles à nos valeurs, ne pas trop les trahir, et à continuer à exister dans un monde maintenant, un monde qui est mondialisé, ça a l'air d'être une évidence, mais non, et qui est un monde de violence et de force.
Mais est-ce que vous diriez, Dominique Schnapper, que de ce point de vue, aujourd'hui, nos démocraties, et peut-être même davantage notre démocratie, ne s'en sort malgré tout pas si mal ?
Elle s'en sort jamais bien, hein. Par définition, la démocratie, on la critique et on a de bonnes raisons de la critiquer. Simplement, si on relativise dans l'histoire humaine, elle s'en sort moins mal que d'autres, c'est tout. Mais, je veux dire, par définition, le citoyen est critique et vaut pour sa critique. Et la démocratie n'est jamais... Elle se donne une utopie qu'elle ne peut pas réaliser. Et donc, par conséquent, elle trahit elle-même toujours ses propres valeurs. Et le problème, c'est de savoir si nous avons un personnel politique qui est capable de récupérer le sens de la vraie politique et de ne pas sombrer uniquement dans les synthèses hasardeuses.
Ça veut dire qu'il faut mettre des limites à la trahison, par exemple ?
Oui, il y a des limites à la trahison. Il y a des moments où la trahison remet en question les valeurs elles-mêmes. Et d'autres cas où c'est des manquements qui sont corrigés autant que faire se peut. Et dans le relatif, il y a de grandes différences. Hein. Il n'y a pas d'absolu, mais dans le relatif, il y a du plus et du moins qui est considérable.
Thierry Pêche.
Ces histoires de trahison. Bon, d'abord un commentaire sur ce qu'a dit mon voisin, citant Hannah Arendt et disant la politique, ça n'arrive pas si souvent. La même Hannah Arendt disait le totalitarisme, ça n'arrive dans sa version chimiquement pure, c'est également très rare. Mais enfin, comme ces deux choses-là sont rares, il faut s'habituer à vivre dans des temps relativement moroses, qui sont les temps de la vie ordinaire, et la politique, c'est aussi fait pour ça. Alors, sur la question de la trahison. Je crois qu'on peut rejeter la faute sur le personnel politique, mais que c'est une facilité et que c'est un peu paresseux. Je crois qu'on a un problème dans nos institutions également. Ça n'est pas la première fois. Vous savez, moi, la loi travail, je sais qu'elle n'est pas très populaire, mais je l'ai défendue, par exemple. Mais je dois reconnaître une chose, c'est que c'est une loi dont personne n'a débattu pendant la campagne électorale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de délibération publique là-dessus. Bon, et c'est pas la première dans ce quinquennat. Donc ça pose une question. Mais c'est pas le premier quinquennat qui est comme ça. Il y en a eu plusieurs avant. Pourquoi est-ce que, et c'est comme ça qu'il faut se poser la question, pourquoi est-ce que si souvent, dans nos institutions, nous avons des campagnes électorales qui parlent de quelque chose et un usage du pouvoir qui parle d'autre chose? Pourquoi ça se passe comme ça? On ne va pas résoudre ça avec un mandat impératif. Bien sûr que les gouvernements doivent réagir à des situations qui n'étaient pas prévues, à des circonstances contingentes, ça s'appelle l'histoire, et on les élit aussi avec ce mandat de faire face aux contingences. Mais si ça arrive si souvent, il faut se demander pourquoi. Eh bien, je pense qu'il y a dans nos institutions une raison qui explique ça. C'est que ce mur de Berlin que construisent nos institutions entre la droite et la gauche, ce malheur aux vaincus que porte notre mode de scrutin principal, qui est le scrutin majoritaire uninominal à deux tours, eh bien, je crois que tout ça pousse pour gagner à raconter un peu n'importe quoi quand on fait campagne, en sachant que lorsqu'on sera au pouvoir, on fera un peu autre chose. Et c'est ça qui ne va pas, si vous voulez, fondamentalement. Et ça ne tient pas aux hommes, ça ne tient pas aux femmes, ça ne tient pas au personnel, ça tient à la façon dont nos institutions sont construites. C'est vrai pour les campagnes présidentielles, mais c'est vrai aussi dans l'exercice du pouvoir législatif. Moi, j'ai vu des députés centristes qui disaient « Je suis d'accord avec la loi Macron, mais si on doit voter, je voterai contre, parce que la discipline parlementaire le veut ainsi, parce que je sais à qui je devrai mon investiture dans 3 ans. » Voilà la vraie raison pour laquelle certains auraient voté contre. Et évidemment, quand les institutions poussent les gens à agir contre leur conscience, je pense qu'on peut dire qu'elles ne sont ni bonnes ni vertueuses.
Quel rôle vous vous donnez aux institutions dans cette crise du politique, Manuel Cervera-Marzal?
Les institutions, je suis d'accord, ont un rôle central parce que avoir des institutions, c'est ce qui permet de stabiliser nos modes de vie, voilà, d'ancrer dans des principes stables et établis qui sont à disposition de tout le monde et à la connaissance de tout le monde, des manières de se rapporter les uns aux autres. Donc c'est essentiel d'avoir des institutions. La question, c'est effectivement quelles institutions. Et pour moi, ce qui est posé aujourd'hui à l'ordre du jour par des mouvements comme ceux dont on a parlé d'occupation des places, mais aussi tout simplement par des choses plus négatives, mais qu'il faut rappeler, comme la hausse structurelle de l'abstention, comme la crise du militantisme, comme la défiance généralisée envers les mal nommés hommes politiques. Ce qui est posé comme question par tous ces phénomènes, c'est celle de savoir si les institutions que nous nommons aujourd'hui démocratiques le sont réellement. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de société démocratique, mais il faut peut-être revenir un petit peu en arrière et se positionner là comme historien. L'institution centrale de l'état de droit, outre les constitutions, c'est quand même les élections. Et la question aujourd'hui, c'est pas de pinailler sur savoir s'il nous faut un petit peu plus de proportionnel ou un petit peu plus de majoritaire, ou bien s'il faut rééquilibrer le pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Non, c'est simplement d'expliquer et de rappeler une fois pour toutes que les élections, c'est un mode de désignation des gouvernants qui est fondamentalement aristocratique et non démocratique. Voilà, c'est une vérité qui était répétée par tous les philosophes politiques, de Aristote à Montesquieu sans interruption, et qu'on a désormais enterré, qu'on a perdu. Les élections, pourquoi on élit des gens? Pour une raison simple, c'est qu'on considère qu'il y en a qui sont compétents et que cela il faut les porter au pouvoir, et il y en a d'autres qui sont incompétents, et cela il faut qu'ils vaquent à leur jouissance privée, à leurs occupations personnelles, et plus ils se tiennent éloignés des affaires publiques, mieux nous nous porterons. Donc nous allons gouverner à leur place. Voilà, ces choses-là, c'est des choses toutes bêtes, et vous parliez du pouvoir de n'importe qui, mais le pouvoir de n'importe qui, c'est exactement ça la démocratie. C'est le pouvoir de vous, de moi, la compétence politique, c'est pas une compétence technique, une compétence réservée aux spécialistes qui serait le monopole d'élus, d'experts, de diplômés ou je ne sais quoi. La compétence politique, on l'a toutes et tous. Et c'est parce qu'on considère qu'elle est universellement partagée qu'on est démocrate. C'est pas plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, nos régimes politiques, c'est des régimes politiques qui, au lieu de conférer le pouvoir à toutes et tous, le confient à certains en raison des titres dont ils bénéficient. Donc ça peut être des titres scolaires, des titres électoraux, des titres de richesse, parce que ben voilà, c'est les portes tournantes et les strapontins entre la direction de l'État et puis la direction des grandes entreprises, etc., etc.
Dominique Schnapper, je vous voyais sourire. Je ne sais pas si c'est un sourire d'approbation ou de désapprobation, ou peut-être un mélange des deux.
Non, je voudrais juste dire que les philosophes politiques invoqués n'ont pas dit que la République représentative était aristocratique. Ils ont dit qu'elle avait un double, qu'elle était Janus, avec une double face. Une face aristocratique, puisqu'effectivement, ceux que nous choisissons sont en général plus âgés et en général plus compétents, ou tout au moins présentés comme plus compétents. Donc c'est la face aristocratique que vous dénoncez. Mais d'autre part, une face démocratique, puisque nous avons à intervalles réguliers le droit de les contrôler et de les renvoyer à leurs chères études s'ils en ont fait. Bon, cela dit, je pense que le problème qui a été soulevé sur les institutions représentatives en ce moment est crucial, parce que effectivement, c'est par les institutions démocratiques que la démocratie cesse d'être une idée pour devenir un moyen de vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est par les pratiques démocratiques qu'on est démocrate. Et donc, on peut pas dire les institutions c'est important et puis dire mais là-dessus le mode de scrutin n'a aucune importance. Si, ça en a, parce que justement, c'est la manière dont se passe la face démocratique de la République représentative. Et nous avons, il me semble, deux problèmes essentiels que vous avez invoqués au moins implicitement, Thierry, c'est-à-dire la scène politique n'est pas à l'image des vrais débats, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gauche et la droite, c'est pas ça qui, en réalité, structure les véritables débats qui nous divisent, normalement. Et d'autre part, nous avons un problème, en tout cas en France, de recrutement du personnel politique. Alors, bien sûr, le personnel politique n'est pas responsable de tout, et nous les choisissons, et nous sommes collectivement responsables de la manière dont nous sommes gouvernés. Mais malgré tout, les modes de recrutement, nous avons un personnel politique beaucoup trop technique, beaucoup trop professionnel, et qui a peu de contact avec le reste de la société. Il faudrait avoir un personnel politique, me semble-t-il, plus ouvert aux nouveaux talents, plus, disons, renouvelé. Quand Ed Miliband a perdu les élections, il a disparu de la scène politique anglaise. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que ce soit M. Corbyn, mais enfin, c'était le résultat d'un certain nombre de votes. Et donc, je crois que dans les pratiques, dans le futur, dans l'avenir qu'on peut prévoir la démocratie, il ne faut pas négliger ces problèmes qui ne sont pas du tout secondaires, parce qu'ils sont ce par quoi la démocratie n'est pas une abstraction ou des discours du soir, mais devient véritablement une pratique.
Merci beaucoup, Dominique Schnapper. On va maintenant se tourner vers les membres de ce qu'on appelle traditionnellement notre deuxième cercle, Rencontre de Pétrarque, donc Camille Grand, qui est spécialiste en recherche stratégique, la philosophe Corinne Pelluchon et Patrick Boucheron, pour leur donner la parole. Alors Patrick Boucheron, d'ailleurs, je me tournerai vers vous en premier, parce que hier on parlait de la mondialisation, d'un monde en mouvement, et puis à un moment donné, j'ai voulu justement vous poser la question de la violence qui s'impose aujourd'hui, et de cette espèce d'effet de cisaille qui est celui du djihadisme sur nos consciences, sur nos discours, sur nos débat. Et je vous ai dit, mais oui, mais alors vous, en historien, comment vous négociez, comment vous faites face, vous faites front à la violence djihadiste? Et vous m'avez répondu, moi, quand je prends la plume pour parler du djihadisme, je ne parle plus, je n'écris plus en historien, j'écris en homme. Quelque part, vous rejoignez ce que disait Thierry Pêche tout à l'heure, c'est-à-dire que le djihadisme, tout d'un coup, vient imposer son effet de cisaille, et voilà, s'il n'y avait pas eu ces attentats, on aurait parlé d'autre chose. Et s'il n'y a pas ces attentats, eh bien vous exprimez en historien, quand les attentats arrivent, vous exprimez, comme vous allez le faire, j'imagine, tout de suite, en homme, Patrick Boucheron.
Oui, c'est-à-dire, d'abord, comme le n'importe qui démocratique qui écoute, ceux qui étaient annoncés pour le débat. Parce que c'est important, ce que vous dites, de fait, dire quand même ce qu'on avait à dire. S'il y a une urgence, elle consiste à nous obliger à faire ce que l'on doit faire, ce qu'on avait prévu de faire, parce qu'on pense que c'est bien, mais peut-être le faire vraiment bien, mieux que ce que l'on fait d'ordinaire. Voilà, c'est juste ça. Il y a évidemment une menace terrifiante, violente, celle dont on aurait dû parler davantage, celle qui s'invite brutalement et malheureusement dans nos conscience et qui fait une entaille profonde, mais toutes celles-là, au fond, ont en commun d'aimer passionnément, terriblement la séparation. Alors, comment on fait lorsque, évidemment, comme historien, comme philosophe, comme intellectuel, comme citoyenne et comme citoyen, on désire ardemment autre chose et que cette autre chose n'a pas d'au-delà et c'est juste, effectivement, le partage si désespérant, peut-être, si fade, si pauvre symboliquement, mais du politique. Eh bien, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a à faire, mais mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. C'est juste ça que je voudrais dire. L'un des intellectuels, parce que c'est de ça dont on parle, hein, dans les rencontres de Pétrarque. Ils sont là pourquoi ? Pas pour prêcher, ni pour donner des perspectives d'action immédiatement effectives, mais simplement de participer avec les autres au paysage, au paysage intellectuel. Et dans ce cas-là, peut-être ne devons-nous simplement toujours faire attention à ne pas nous payer de mots, alors que c'est notre métier. Pour l'instant... La dissymétrie entre ces forces de séparation si puissantes et séduisantes et le petit frémissement du mouvement des places, cette asymétrie, elle est terrible, quoi. Alors, on ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas se contenter de dire « mais il y a aussi ». Non, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, face à ce qui vient, nous n'avons rien. Nous sommes désarmé intellectuellement. J'ai pas besoin de croyance ni de récit, mais en tout cas d'un encouragement à l'action collective. Voilà. Et cette action, pour l'instant, on parle d'une action de pensée, on parle pas d'autre chose. Et c'est pour ça que notre présence ici n'est pas complètement inopportune. Et je veux dire tous ensemble.
Dire quand même ce qu'on avait à dire, vous venez de dire Patrick Boucheron, Corinne Pelluchon, encore faut-il pouvoir être entendu par rapport à ce qu'on a malgré tout à dire. Est-ce que pour vous, c'est justement quelque chose qui vous paraît peut-être plus compliqué aujourd'hui, parce que pour toujours revenir un petit peu à cette immédiateté et à cette façon dont ces événements-là s'imposent totalement, s'imposent en particulier et notamment à nous qui représentons ici les médias, et peut-être de moins se préoccuper de sujets qui mériteraient au moins une attention identique.
Mais je ne pense pas qu'il y ait une inactualité des autres sujets. Néanmoins, ce que ces événements, quand on les prend sérieux, nous enseignent, c'est quand même ce vide, le mot a été employé, et le lien entre la vulnérabilité au mal des individus et les formes autoritaires ou la violence politique, pardon. Et c'est vrai qu'il a été prononcé le mot « le politique », et « le politique » et « la politique », c'est différent. Schmitt et Léo Strauss reprendra ça. « Le politique », ça suppose qu'on articule les décisions politiques à une vision de l'homme, du bien-vivre. Alors c'est vrai, Dominique Schnapper l'a dit, le libéralisme politique, c'est l'idée que l'État ne va pas s'inviter dans les chambres à coucher et qu'on ne va pas s'octroyer la prétention, le droit de définir ce qui est bien pour les autres. Néanmoins, il n'y a pas, quand il y a une éclipse du politique qui devient la politique, c'est-à-dire une sphère autonome, finalement récupérée par l'économisme, par le marché et ce qu'il est devenu. Eh bien, les individus s'éprouvent comme force de production, de consommation, et ils ne voient pas d'horizon commun, ils ne voient pas, n'existe finalement que pour eux, et s'éprouvent en tant par leurs avoirs. Et donc, quand il y a une sorte de honte sociale, des classements, ils éprouvent ces échecs comme des hontes. Ils réagissent par la projection, le ressentiment. Et ça, c'est-à-dire que là, on a un nihilisme, un vide, et je crois que nous en sommes aussi responsables. Parce que c'est vrai qu'auparavant, nos arrière-grands-parents, ils vivaient avec comme horizon ou Dieu. Ensuite, avec finalement l'histoire, le communisme ou la nation. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ces réponses-là. Et c'est parce qu'il n'y a pas ces réponses que ce monde qui s'est imposé à presque tout le monde, qui n'est que l'économisme, qui dégrade l'humain, dégrade aussi la démocratie, laquelle est un idéal qui est exigeant, supposant effectivement l'égalité morale des individus, mais aussi la culture, l'autonomie, de la responsabilité, et qui prend en charge des questions aujourd'hui très complexes, comme on l'a vu hier, demandant des récits non simplificateurs. Alors je crois qu'aujourd'hui, ce que on peut faire, nous, modestement néanmoins, mais avec courage, si on, eh bien, c'est de penser, de suggérer un commun. Et moi, me semble-t-il que là, je n'ai plus au retour du théologico-politique ni de grandes fresques historiques, dont Raymond Aron soulignait justement le danger dans les philosophies de l'histoire, où il y a un seul moteur de l'histoire, c'est peut-être l'âge du vivant, du respect du vivant. Parce que la résistance au gars qui a pris un camion pour foncer dans la foule, ce ne sont pas des ennemis les gens qu'il a tués, il ne les connaissait même pas. Et quand il avait 5 ou 6 ans, on n'imagine pas que sa vocation c'était de faire cela. Donc ça, quand il a fait ça, bien la résistance majeure finalement à ces actes d'une violence extrême, et bien c'est le respect du vivant, c'est le respect de tout vivant. Et ça, c'est peut-être ce que nous avons à conquérir et à trouver les formes pour le dire. Donc je crois que, disant cela, il n'y a pas une si grande opposition entre tous ces thèmes.
Alors Camille Grand, il y a une question que je voudrais absolument vous poser avant que ce débat se termine. En m'appuyant notamment, parce que vous parlez vous beaucoup de la guerre, vous occupez de la guerre, et je me souviens que dans une interview de Patrick Boucheron à Libération au lendemain des attentats de novembre, on lui disait, mais est-ce qu'il faut exorciser ce qui se passe, et il disait, exorciser oui, mais quoi, sans doute le spectre de la guerre civile, hein. Il parlait de ça, disant que les gens qui tuaient étaient français, etc. Refuser, voilà, l'exorcisme est une pratique dangereuse, refuser de voir en face la possibilité de la guerre civile, c'est risquer de travailler à des divisions plus mortifères encore. Aujourd'hui, c'est une question dont on parle à la fois partout et nulle part dans le débat intellectuel, cette question de la guerre civile, qui est une question qui monte en permanence. Ici, on n'est pas loin de Béziers, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une réunion de la droite, de l'extrême droite à Béziers, et que, par exemple, Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, qui a publié un livre qui s'appelle « Vers la guerre civile », a été hué comme gauchiste quasiment à Béziers. Donc il y a cette espèce de spectre de la guerre civile qui est très important et que le djihadisme ne vient finalement que nous rappeler parce que indépendamment du djihadisme, aussi bien un peu partout dans la société, y compris dans le milieu intellectuel, on sent monter comme quelque chose comme un désir de guerre civile. Camille Grand.
J'espère pas. Moi, je crois que ce qu'on essaye de faire là aujourd'hui, j'écoutais très attentivement le débat, c'est d'échapper à la sidération et d'échapper à une forme justement de simplification, de polarisation excessive. En même temps, je pense que notre devoir face à ça, c'est quand même de mettre des mots sur les choses. Je lisais le débat de Thérèse Delpech aux rencontres de Pétrarque, où elle parlait déjà de ces risques géopolitiques, et en disant mon devoir, ça n'est pas, ou mon envie, ça n'est pas de faire peur, mais c'est aussi de regarder le monde les yeux ouverts. Et face à cette violence, on doit essayer de mettre des mots sur les choses, en parlant peut-être de totalitarisme à propos de cet islamisme radical. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai pas trop de difficultés à parler d'ennemis. Alors, ensuite, il faut échapper, effectivement, au spectre de la guerre civile, c'est-à-dire ne pas caractériser cet ennemi comme un ennemi intérieur qui mériterait de rentrer en guerre civile contre lui, mais bien comme une menace qu'on peut et qu'on doit essayer de réduire parce qu'elle atteint les fondements même de notre société. Je crois que c'est ça ce qu'on peut essayer de faire en essayant de mettre des mots sur les choses. Thierry Pech évoquait la figure du perdant de manière générale. Moi, je pensais à la figure du perdant radical de Hans Magnus Enzensberger quand il, justement, il disait au fond, ce djihadiste lui faisait penser au SA qui cherchait à provoquer cette guerre civile. Et c'est exactement ça qui fait peur dans les événements de la nuit dernière. C'est comment est-ce que dans le contexte, ni soit en l'occurrence, on va avoir cette polarisation qui va tourner autour de la figure de l'ennemi et de l'opposition qui mène effectivement à ce risque de guerre civile.
Alors Thierry Pajou, qui est un observateur très, très fort et très affûté du monde intellectuel, mais aussi de la société telle qu'elle va, ce thème de la guerre civile qui monte, qu'on entend un peu partout, sans qu'on puisse vraiment mettre des mots dessus ou y comprendre quelque chose, comment vous l'envisagez? Parce que il dit quelque chose d'une certaine situation de la politique et de la chose politique.
D'abord, c'est pas un objet inconnu, la guerre civile, dans notre histoire. On a connu. Et ça ne ressemble pas à ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Moi, je ne vois pas les ferments d'une guerre civile aujourd'hui en France. En revanche, je pense que là où appuie sur le djihadisme, c'est sur quelque chose qui tient des violences religieuses, qui n'embraserait pas nécessairement toute la société, mais qui pourrait effectivement créer des désordres intérieurs importants. Mais la guerre civile, comme on a connu l'Espagne, comme on a connu sous les guerres de religion en France, je ne pense pas qu'on soit à la veille de ce genre de situation. Je pense qu'il faut savoir raison garder et qu'on n'en est pas tout à fait là.
Je vous parlais moins de la guerre civile qui vient que de ce désir, de ce discours, vous voyez, ce livre de Rioufol, ces discours qu'on entend un peu partout, l'interview de Patrick Boucheron qui nommait la chose en disant qu'il ne fallait pas l'exorciser.
Mais vous devriez lire un peu moins Rioufol, Jean, je crois. Vous vous faites peur
ou
avec pas grand-chose.
Un peu plus Patrick Boucheron, alors.
Non, mais ça, par contre, ça me fait moins peur. Moi, quand je lis Patrick Boucheron, je ne fais pas les cauchemars de la guerre civile.
Mais il en parlait dans cette interview, je vous la donnerai à lire.
Dominique Schnapper, peut-être pour conclure d'ailleurs cette discussion.
Il n'y a pas de conclusion, bien entendu. Mais en l'absence de conclusion, je voudrais juste dire que je suis d'accord avec Thierry sur le fait qu'on n'est pas dans la perspective de la guerre civile. Moi, ce que je crains beaucoup, c'est un mélange de délitement des institutions et de violence sporadique dans les coins. Et plutôt que l'idée de la guerre civile avec tout ce que l'histoire nous a appris. Mais le délitement des différents liens sociaux, l'absence de perception de la réalité du monde tel qu'il est, me paraît un danger, pour l'instant, plus grand que l'idée de guerre civile. Puis vous savez, il y a des moments comme ça, la guerre civile devient un mot. Et puis un autre mot, le mot sidération. On n'a jamais autant parlé de sidération que depuis quelque temps. Or, c'est pas un phénomène absolument nouveau, mais il vient. Il y a eu le mot incontournable, tout était incontournable à un certain moment, puis on a contourné, donc le mot est sorti de... Donc il faut aussi prendre une certaine distance avec les mots qui courent et qui sont à la mode. Et moi, je lancerais plutôt la crainte du délitement que de la guerre civile.
Manuel Cervera-Marzal.
Oui, juste un mot sur cette histoire de guerre civile, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'on n'est pas, et heureusement, au bord de la guerre civile, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement qui utilise ce syntagme et qui véhicule ce discours, et on se rend compte que ceux qui parlent de guerre civile, qui prophétisent, qui annoncent la guerre civile, c'est peut-être ceux qui, justement, y ont le plus grand intérêt. Il y a deux mouvances aujourd'hui qui jouent beaucoup sur cette peur-là. C'est l'extrémisme djihadiste et puis c'est l'extrême droite, voilà, qui l'un comme l'autre ont comme projet. Alors c'est paradoxal.
Vous pensez qu'à l'extrême gauche, il y a personne qui rêve d'un embrasement d'une guerre civile en France.
Pas du même embrasement que celui dont rêvent les extrémistes djihadistes et l'extrême droite, qui est un embrasement entre une France blanche et chrétienne, pour le dire dans leurs termes, et de l'autre côté entre une France musulmane et arabe. Par contre, à l'extrême gauche, ce qu'il y a peut-être, c'est un constat qui était fait par Warren Buffett lui-même, hein, un des deux ou trois plus grands milliardaires qui existent actuellement, qui disait il y a à peine 5 ans que nous sommes en pleine guerre de classe et que c'est la mienne, celle des riches, qui va la gagner. Et ça, c'est pas des extrêmes gauches qui le disent, c'est simplement Warren Buffett.
Merci. Merci en tout cas à tous les 6 d'avoir participé à cette discussion, dernière discussion des 30e rencontres de Pétrarque. Merci Dominique Schnapper, Corinne Pelluchon, Thierry Pech, Manuel Cervera-Marzal, Patrick Boucheron. Et Camille Grand, merci à toutes les équipes du rectorat une fois encore pour leur accueil absolument parfait d'année en année. Merci aux équipes techniques de Radio France, en particulier aujourd'hui à Adrien Gaza, Alexandre James, Gaël Brauzek et Gilles Manet. Ces rencontres sont réalisées par Nathalie Salle, elles sont coordonnées par Mathieu Maroudin. Les 30e rencontre de Pétrarque dans leur intégralité. Vous allez pouvoir très vite, vous pouvez d'ailleurs déjà en partie les retrouver sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez retrouver les précédentes dans ce hors-série que nous vous proposons en collaboration avec le journal Le Monde. On se donne rendez-vous évidemment pour la 31e édition l'an prochain. À bientôt.